Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Pour cette première émission de septembre 2010, nous céderons la parole à notre sœur Gisèle Évrard de la Fédération Spirite de la province de Liège, avec qui nous continuerons la lecture du livre de la jeunesse. Nous terminerons par divers communiqués de nos partenaires, ainsi que l'agenda des activités programmées pour les mois à venir. Pour émettre des commentaires sur nos émissions, ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et autres pays limitrophes ou tout simplement consulter notre site internet. À toutes et à tous, nous vous souhaitons une très bonne écoute. Aujourd'hui, notre sœur Gisèle nous invite à poursuivre la lecture de la jeunesse selon le spiritisme, suite du chapitre 16 traitant des prédictions selon le spiritisme, théorie de la préscience, du point numéro 4 au point numéro 12.
La jeunesse selon le spiritisme, les prédictions selon le spiritisme, chapitre 16, suite. Théorie de la préscience. Point 4. Cependant, comme l'homme doit concourir au progrès général et que certains événements doivent résulter de sa coopération, il peut être utile, dans des cas spéciaux, qu'il soit pressenti sur ces événements, afin qu'il en prépare les voies et se tienne prêt à agir quand le moment sera venu. C'est pourquoi Dieu permet parfois qu'un coin du voile soit soulevé, mais c'est toujours dans un but utile et jamais pour satisfaire une vaine curiosité. Cette mission peut donc être donnée non à tous les esprits, puisqu'il en est qui ne connaissent pas mieux l'avenir que les hommes, mais à quelques esprits suffisamment avancés pour cela. Or, il est à remarquer que ces sortes de révélations sont toujours faites spontanément et jamais, ou bien rarement du moins, en réponse à une demande directe. Point 5. Cette mission peut également être dévolue à certains hommes, et voici de quelle manière. Celui à qui est confié le soin de révéler une chose cachée peut en recevoir à son insu l'inspiration des esprits qui la connaissent, et alors il la transmet machinalement sans s'en rendre compte. On sait en outre que, soit pendant le sommeil, soit à l'état de veille, dans les extases de la double vue, l'âme se dégage et possède à un degré plus ou moins grand les facultés de l'esprit libre. Si c'est un esprit avancé, s'il a surtout, comme les prophètes, reçu une mission spéciale à cet effet, il jouit, dans les moments d'émancipation de l'âme, de la faculté d'embrasser par lui-même une période plus ou moins étendue et voit, comme présent, les événements de cette période. Il peut alors les révéler à l'instant même ou en conserver la mémoire à son réveil. Si ces événements doivent rester dans le secret, il ne perdra le souvenir ou il ne lui en restera qu'une vague intuition suffisante pour le guider instinctivement. Point 6. C'est ainsi qu'on voit cette faculté se développer providentiellement dans certaines occasions, dans les dangers imminents, dans les grandes calamités, dans les révolutions, et que la plupart des sectes persécutées ont eu de nombreux voyants. C'est encore ainsi que l'on voit de grands capitaines marcher résolument à l'ennemi avec la certitude de la victoire. Des hommes de génie, comme Christophe Colomb, par exemple, poursuivent un but en prédisant, pour ainsi dire, le moment où ils l'atteindront. C'est qu'ils ont vu ce but qui n'est pas l'inconnu pour leur esprit. Le don de prédiction n'est donc pas plus surnaturel qu'une foule d'autres phénomènes. Il repose sur les propriétés de l'âme et la loi des rapports du monde visible et du monde invisible que le spiritisme vient faire connaître. Cette théorie de la préscience ne résout peut-être pas d'une manière absolue tous les cas que peut présenter la révélation de l'avenir, mais on ne peut disconvenir qu'elle en pose le principe fondamental. Point 7. Souvent, les personnes douées de la faculté de prévoir dans l'état extatique ou somnambulique voient les événements se dessiner comme dans un tableau. Ceci pourrait aussi s'expliquer par la photographie de la pensée. Un événement étant dans la pensée des esprits qui travaillent à son accomplissement, ou dans celle des hommes dont les actes doivent le provoquer, Cette pensée, traversant l'espace comme les sons traversent l'air, peut faire image pour le voyant. Mais comme la réalisation peut en être hâtée ou retardée par un concours de circonstances, il voit la chose sans pouvoir en préciser le moment. Parfois même, cette pensée peut n'être qu'un projet, un désir qui peuvent n'avoir pas de suite. De là les erreurs fréquentes de fait et de date dans les prévisions. Entre parenthèses, chapitre 14, numéro 13 et suivant. Fermez la parenthèse. Point 8. Pour comprendre les choses spirituelles, c'est-à-dire pour s'en faire une idée aussi nette que celle que nous nous faisons d'un paysage qui est sous nos yeux, il nous manque véritablement un sens, exactement comme à l'aveugle, il manque le sens nécessaire pour comprendre les effets de la lumière, des couleurs et de la vue sans le contact. Aussi, n'est-ce que par un effort de l'imagination que nous y parvenons, et à l'aide de comparaisons puisées dans les choses qui nous sont familières. Mais des choses matérielles ne peuvent donner que des idées très imparfaites des choses spirituelles. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas prendre ces comparaisons à la lettre et croire, par exemple, que l'étendue des facultés perceptives des esprits tient à leur élévation effective et qu'ils ont besoin d'être sur une montagne ou au-dessus des nuages pour embrasser le temps ou l'espace. Cette faculté est inhérente à l'état de spiritualisation, ou, si l'on veut, de dématérialisation. C'est-à-dire que la spiritualisation produit un effet que l'on peut comparer, quoique très imparfaitement, à celui de la vue d'ensemble de l'homme qui est sur la montagne. Cette comparaison avait simplement pour but de montrer que des événements qui sont dans l'avenir pour les uns sont dans le présent pour d'autres, et peuvent ainsi être prédits, ce qui n'implique pas que les faits se produisent de la même manière. Pour jouir de cette perception, l'esprit n'a donc pas besoin de se transporter sur un point quelconque de l'espace. Celui qui est sur la terre à nos côtés peut la posséder dans sa plénitude tout aussi bien que s'il en était à mille lieues, tandis que nous ne voyons rien en dehors de l'horizon visuel. La vue, chez les esprits, ne se produisant pas de la même manière ni avec les mêmes éléments que chez l'homme, leur horizon visuel est tout autre. Or, c'est précisément là le sens qui nous manque pour le concevoir. L'esprit, à côté de l'incarné, est comme le voyant, à côté d'un aveugle. Point 9. Il faut bien se figurer, en outre, que cette perception ne se borne pas à l'étendue, mais qu'elle comprend la pénétration de toute chose. C'est, nous le répétons, une faculté inhérente et proportionnée à l'état de dématérialisation. Cette faculté est amortie par l'incarnation, mais elle n'est pas complètement annulée, parce que l'âme n'est pas enfermée dans le corps comme dans une boîte. L'incarné la possède, quoique toujours à un moindre degré, que lorsqu'il est entièrement dégagé. C'est ce qui donne à certains hommes une puissance de pénétration qui manque totalement à d'autres, une plus grande justesse dans le coup d'œil moral, une compréhension plus facile des choses extramatérielles. Non seulement l'esprit incarné perçoit, mais il se souvient de ce qu'il a vu à l'état d'esprit. Et ce souvenir est comme un tableau qui se retrace à sa pensée. Dans l'incarnation, il voit, mais vaguement et comme à travers un voile. À l'état de liberté, il voit et conçoit clairement. Le principe de la vue n'est pas hors de lui, mais en lui. C'est pour cela qu'il n'a pas besoin de notre lumière extérieure. Par le développement moral, le cercle des idées et de la conception s'élargit. Par la dématérialisation graduelle du périsprit, celui-ci se purifie des éléments grossiers qui altéraient la délicatesse des perceptions. D'où il est aisé de comprendre que l'extension de toutes les facultés suit le progrès de l'esprit. Point 10. C'est le degré de l'extension des facultés de l'esprit qui, dans l'incarnation, le rend plus ou moins apte à concevoir les choses spirituelles. Toutefois, cette aptitude n'est pas la conséquence nécessaire du développement de l'intelligence. La science vulgaire ne la donne pas. C'est pour cela qu'on voit des hommes d'un grand savoir aussi aveugles pour les choses spirituelles que d'autres le sont pour les choses matérielles. Ils y sont réfractaires parce qu'ils ne les comprennent pas. Cela tient à ce que leur progrès ne s'est pas encore accompli dans ce sens. tandis qu'on voit des personnes d'une instruction et d'une intelligence vulgaire les saisir avec la plus grande facilité, ce qui prouve qu'elles en avaient l'intuition préalable. C'est chez elles un souvenir rétrospectif de ce qu'elles ont vu et su, soit dans l'erraticité, soit dans leurs existences antérieures comme d'autres ont l'intuition des langues et des sciences qu'elles ont possédées. Point 11. Quant à l'avenir du spiritisme, les esprits, comme on le sait, sont unanimes pour en affirmer le triomphe prochain, malgré les entraves qu'on lui oppose. Cette prévision leur est facile d'abord parce que sa propagation est leur œuvre personnelle. Concourant au mouvement ou le dirigeant, ils savent, par conséquent, ce qu'ils doivent en faire. En second lieu, il leur suffit d'embrasser une période de courte durée et, dans cette période, ils voient les puissances auxiliaires que Dieu lui suscite et qui ne tarderont pas à se manifester. Sans être esprit désincarné, que les spirites se portent seulement à 30 ans en avant au milieu de la génération qui s'élève, que de là ils considèrent ce qui se passe aujourd'hui, qu'ils en suivent la marche progressive et ils verront se consumer en vains efforts ceux qui se croient appelés à le renverser. Ils les verront peu à peu disparaître de la scène, à côté de l'arbre qui grandit et dont les racines s'étendent chaque jour davantage. Point 12. Les événements vulgaires de la vie privée sont, le plus souvent, la conséquence de la manière d'agir de chacun. Tel réussira suivant ses capacités, son savoir-faire, sa persévérance, sa prudence et son énergie, ou un autre échouera par son insuffisance. De sorte qu'on peut dire que chacun est l'artisan de son propre avenir, lequel n'est jamais soumis à une aveugle fatalité indépendante de sa personne. Connaissant le caractère d'un individu, on peut aisément lui prédire le sort qui l'attend dans la route où il s'engage.
Continuons notre lecture du jour par la suite et fin du chapitre 16 de la Genèse, théorie de la préscience, du point 13 à 18, ainsi que le chapitre 17 traitant des prédictions de l'Évangile. Nul n'est prophète en son pays, point 1.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 16, théorie de la préscience. Point 13. Les événements qui touchent aux intérêts généraux de l'humanité sont réglés par la Providence. Quand une chose est dans les desseins de Dieu, elle doit s'accomplir quand même, soit par un moyen, soit par un autre. Les hommes concourent à son exécution, mais aucun n'est indispensable. Autrement Dieu lui-même serait à la merci de ses créatures. Si celui à qui incombe la mission de l'exécuter fait défaut, un autre en est chargé. Il n'y a point de mission fatale. L'homme est toujours libre de remplir celle qui lui est confiée et qu'il a volontairement acceptée. S'il ne le fait pas, il en perd le bénéfice et il assume la responsabilité des retards qui peuvent être le fait de sa négligence ou de son mauvais vouloir. S'il devient un obstacle à son accomplissement, Dieu peut le briser d'un souffle. Point 14. Le résultat final d'un événement peut donc être certain, parce qu'il est dans les vues de Dieu. Mais, comme le plus souvent, les détails et le mode d'exécution sont subordonnés aux circonstances et au libre arbitre des hommes, les voies et les moyens peuvent être éventuels. Les esprits peuvent nous pressentir sur l'ensemble s'il est utile que nous en soyons prévenus. Mais pour préciser le lieu et la date, il faudrait qu'ils connussent d'avance la détermination que prendra tel ou tel individu. Or, si cette détermination n'est pas encore dans sa pensée, selon ce qu'elle sera, elle peut hâter ou retarder le dénouement, modifier les moyens secondaires d'action, tout en aboutissant au même résultat. C'est ainsi, par exemple, que les esprits peuvent, par l'ensemble des circonstances, prévoir qu'une guerre est plus ou moins prochaine, qu'elle est inévitable, sans pouvoir prédire le jour où elle commencera, ni les incidents de détail qui peuvent être modifiés par la volonté des hommes. Point 15. Pour la fixation de l'époque des événements futurs, il faut en outre tenir compte d'une circonstance inhérente à la nature même des esprits. Le temps, de même que l'espace, ne peut être évalué qu'à l'aide de points de comparaison ou de repères qui le divisent en périodes que l'on peut compter. Sur la Terre, la division naturelle du temps en jours et en années est marquée par le lever et le coucher du soleil et par la durée du mouvement de translation de la Terre. Les unités de mesure du temps doivent varier selon les modes, puisque les périodes astronomiques sont différentes. C'est ainsi, par exemple, que dans Jupiter, les jours équivalent à 10 de nos heures et les années après de 12 années terrestres. Il y a donc pour chaque mode une manière différente de supputer la durée, suivant la nature des révolutions astrales qui s'y accomplissent. Ce serait déjà une difficulté pour la détermination de nos dates par des esprits qui ne connaîtraient pas notre monde. Mais en dehors des mondes, ces moyens d'appréciation n'existent pas. Pour un esprit, dans l'espace, il n'y a ni lever ni coucher de soleil marquant les jours, ni révolution périodique marquant les années. Il n'y a pour lui que la durée et l'espace infini. Entre parenthèses, chapitre 6, numéro 1 et suivant. Fermez la parenthèse. Celui donc qui ne serait jamais venu sur la Terre n'aurait aucune connaissance de nos calculs qui, du reste, lui seraient complètement inutiles. Il y a plus. Celui qui n'aurait jamais été incarné sur aucun mode n'aurait aucune notion des fractions de la durée. Lorsqu'un esprit étranger à la Terre vient s'y manifester, il ne peut assigner de date aux événements qu'en s'identifiant avec nos usages, ce qui est sans doute en son pouvoir, mais ce que, le plus souvent, il ne juge pas utile de faire. Point 16. Les esprits qui composent la population invisible de notre globe, où ils ont déjà vécu et où ils continuent de vivre au milieu de nous, sont naturellement identifiés avec nos habitudes, dont ils emportent le souvenir dans l'ératicité. Ils pourraient par conséquent plus facilement assigner une date aux événements futurs lorsqu'ils la connaissent. Mais, outre que cela ne leur est pas toujours permis, ils en sont empêchés par cette raison que toutes les lois, que les circonstances de détail sont subordonnées au libre arbitre et à la décision éventuelle de l'homme. La date précise n'existe réellement que lorsque l'événement est accompli. Voilà pourquoi les prédictions circonstanciées ne peuvent offrir de certitude et ne doivent être acceptées que comme des probabilités, alors même qu'elles ne porteraient pas avec elles cachées de légitimes suspicions. Aussi les esprits vraiment sages ne prédisent jamais rien à époque fixe. Ils se bornent à nous pressentir sur l'issue des choses qu'il nous est utile de connaître. Insister pour avoir des détails précis, c'est s'exposer aux mystifications des esprits légers qui prédisent tout ce qu'on veut, sans se soucier de la vérité, et s'amusent des frayeurs et des déceptions qu'ils causent. Point 17. La forme assez généralement employée jusqu'ici pour les prédictions en fait de véritables énigmes, souvent indéchiffrables. Cette forme mystique et cabalistique, dont Nostradamus offre le type le plus complet, leur donne un certain prestige aux yeux du vulgaire, qui leur attribue d'autant plus de valeur qu'elles sont plus incompréhensibles. Par leur ambiguïté, elles se prêtent à des interprétations très différentes, de telle sorte que, selon le sens attribué à certains mots allégoriques ou de convention, selon la manière de supputer le calcul bizarrement compliqué des dates, et avec un peu de bonne volonté, on y trouve à peu près tout ce qu'on veut. Quoi qu'il en soit, on ne peut disconvenir que quelques-unes ont un caractère sérieux et confondent par leur véracité. Il est probable que cette forme voilée a eu dans un temps sa raison d'être et même sa nécessité. Aujourd'hui, les circonstances ne sont plus les mêmes. Le positivisme du siècle s'accommoderait peu du langage sibyllin. Aussi, les prédictions de nos jours n'affectent plus ces formes étranges. Celles que font les esprits n'ont rien de mystique. Ils parlent le langage de tout le monde, comme ils l'eussent fait de leur vivant, parce qu'ils n'ont pas cessé d'appartenir à l'humanité. Ils nous pressentent sur les choses futures, personnel ou général lorsque cela peut être utile, dans la mesure de la perspicacité dont ils sont doués, comme le feraient des conseillers ou des amis. Leurs prévisions sont donc plutôt des avertissements, qui n'ont rien au libre arbitre que des prédictions proprement dites qui impliqueraient une fatalité absolue. Leur opinion est en outre presque toujours motivée, parce qu'ils ne veulent pas que l'homme annihile sa raison sous une foi aveugle, ce qui permet d'en apprécier la justesse. Point 18. L'humanité contemporaine a aussi ses prophètes. Plus d'un écrivain, poète, littérateur, historien ou philosophe a pressenti dans ses écrits la marche future des choses que l'on voit se réaliser aujourd'hui. Cette aptitude tient souvent sans doute à la rectitude du jugement qui déduit les conséquences logiques du présent, mais souvent aussi, elle est le résultat d'une clairvoyance spéciale inconsciente ou d'une inspiration étrangère. Ce que ces hommes ont fait de leur vivant, ils peuvent à plus forte raison le faire et avec plus d'exactitude à l'état d'esprit, alors que la vue spirituelle n'est plus obscurcie par la matière. Chapitre 17. Prédiction de l'Évangile. Nul n'est prophète en son pays. Point 1. Et étant venu en son pays, il les instruisait dans leur synagogue, de sorte qu'étant saisis d'étonnement, il disait « Tous sont venus à celui-ci cette sagesse et ces miracles. N'est-ce pas le fils de ce charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ?» Et ainsi, il prenait de lui un sujet de scandale. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est sans honneur que dans son pays et dans sa maison. » Et il ne fit pas, là, beaucoup de miracles, à cause de leur incrédulité. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 13, versets de 54 à 58.
Pour clôturer sa lecture du jour, notre sœur Gisèle vous invite à suivre la suite du chapitre 17 « Nul n'est prophète en son pays » point 2 « Mort et passion de Jésus » point numéro 3 à 9.
La jeunesse selon le spiritisme, suite du chapitre 17 « Prédiction de l'Évangile » « Nul n'est prophète en son pays » suite point 2 Jésus énonçait là une vérité passée au proverbe, qui est de tous les temps et à laquelle on pourrait donner plus d'extension en disant que nul n'est prophète de son vivant. Dans le langage usuel, cette maxime s'entend du crédit dont un homme jouit parmi les siens et ceux au milieu desquels il vit, de la confiance qui leur inspire par la supériorité du savoir et de l'intelligence. Si elles souffrent des exceptions, elles sont rares, et dans tous les cas, elles ne sont jamais absolues. Le principe de cette vérité est une conséquence naturelle de la faiblesse humaine, et peut s'expliquer ainsi. L'habitude de se voir depuis l'enfance, dans les circonstances vulgaires de la vie, établit entre les hommes une sorte d'égalité matérielle qui fait que souvent, on se refuse à reconnaître une supériorité morale en celui dont on a été le compagnon ou le commensal, qui est sorti du même milieu et dont on a vu les premières faiblesses. L'orgueil souffre de l'ascendant qu'il est obligé de subir. Quiconque au-dessus du niveau commun est toujours en butte à la jalousie et à l'envie. Ceux qui se sentent incapables d'atteindre à sa hauteur s'efforcent de le rabaisser par le dénigrement, la médisance et la calomnie. Ils crient d'autant plus fort qu'ils se voient plus petits, croyant se grandir et l'éclipser par le bruit qu'ils font. Telle a été et telle sera l'histoire de l'humanité, tant que les hommes n'auront pas compris leur nature spirituelle et n'auront pas élargi leur horizon moral. Aussi ce préjugé est-il le propre des esprits étroits et vulgaires qui rapportent tout à leur personnalité. D'un autre côté, on se fait généralement des hommes, que l'on ne connaît que par leur esprit, un idéal qui grandit avec l'éloignement des temps et des lieux. On les dépouille presque de l'humanité. Il semble qu'ils ne doivent ni parler ni sentir comme tout le monde, que leur langage et leurs pensées doivent être constamment au diapason de la sublimité, sans songer que l'esprit ne saurait être incessamment tendu et dans un état perpétuel de surexcitation. Dans le contact journalier de la vie privée, on voit trop l'homme matériel que rien ne distingue du vulgaire. L'homme corporel qui frappe les sens efface presque l'homme spirituel qui ne frappe que l'esprit. De loin, on ne voit que les éclairs du génie. De près, on voit les repos de l'esprit. Après la mort, la comparaison n'existant plus, l'homme spirituel reste seul, et il paraît d'autant plus grand que le souvenir de l'homme corporel est plus éloigné. Voilà pourquoi les hommes qui ont marqué leur passage sur la terre par des œuvres d'une valeur réelle sont plus appréciés après leur mort que de leur vivant. Ils sont jugés avec plus d'impartialité parce que les envieux et les jaloux ayant disparu, les antagonismes personnels n'existent plus. La postérité est un juge désintéressé qui apprécie l'œuvre de l'esprit, l'accepte sans enthousiasme aveugle si elle est bonne, la rejette sans haine si elle est mauvaise, abstraction faite de l'individualité qui l'a produite. Jésus pouvait d'autant moins échapper aux conséquences de ce principe, inhérent à la nature humaine, qu'il vivait dans un milieu peu éclairé, et parmi des hommes tout entiers à la vie matérielle. Ses compatriotes ne voyaient en lui que le fils du charpentier, le frère d'hommes aussi ignorants qu'eux, et ils se demandaient ce qui pouvait le rendre supérieur à eux et lui donner le droit de les censurer. Aussi, en voyant que sa parole avait moins de crédit sur les siens, qui le méprisaient, que sur les étrangers, il alla prêcher parmi ceux qui l'écoutaient, au milieu desquels il trouvait de la sympathie. On peut juger de quels sentiments ses proches étaient animés envers lui par ce fait, que ses propres frères, accompagnés de sa mère, vinrent dans une assemblée où il se trouvait, pour se saisir de lui, disant qu'il avait perdu l'esprit. Entre parenthèses, Saint Marc, chapitre 3, versets 20 et 21 et de 31 à 35, ainsi que Évangile selon le spiritisme, chapitre 14. Fermez la parenthèse. Ainsi, d'un côté, les prêtres et les pharisiens accusaient Jésus d'agir par le démon, de l'autre, il était taxé de folie par ses plus proches parents. N'est-ce pas ainsi qu'on en use de nos jours à l'égard des spirites, et ceux-ci doivent-ils se plaindre de n'être pas mieux traités par leurs concitoyens que ne le fut Jésus? Ce qui n'avait rien d'étonnant il y a 2000 ans, chez un peuple ignorant, est plus étrange au XIXe siècle chez les nations civilisées. Mort et passion de Jésus. Point 3. Entre parenthèses, après la guérison du lunatique. Fermez la parenthèse. Tous furent étonnés de la grande puissance de Dieu. Et lorsque tout le monde était dans l'admiration de ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Mettez bien dans votre cœur ce que je vais vous dire. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais ils n'entendaient point ce langage. Il leur était tellement caché qu'ils n'y comprenaient rien et ils appréhendaient même de l'interroger à ce sujet. Entre parenthèses, Saint Luc, chapitre 9, versets 44 et 45. Fermez la parenthèse. Point 4. Dès lors, Jésus commença à découvrir à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il y souffrit beaucoup de la part des sénateurs, des scribes et presses des prêtres, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 16, verset 21. Fermez la parenthèse. Point 5. Lorsqu'ils étaient en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et il ressuscitera le troisième jour. » Ce qui les affligea extrêmement. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 16, verset 21-22. Fermez la parenthèse. Point 6. Or Jésus, s'en allant à Jérusalem, il prit à part ses 12 disciples et leur dit, « Nous allons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux princes des prêtres et aux scribes, qui le condamneront à mort, et le livreront aux gentils, afin qu'ils le traitent avec moquerie, et qu'ils le fouettent et le crucifient. et il ressuscitera le troisième jour. Entre parenthèses, Saint Matthieu chapitre 20, versets 17, 18, 19. Fermez la parenthèse. Point 7. Ensuite, Jésus, prenant à part les 12 apôtres, leur dit : Voici, nous allons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes touchant le Fils de l'homme va être accompli. Car il sera livré aux gentils, on se moquera de lui, on le fouettera, on lui crachera au visage. Et après qu'on l'aura fouetté, on le fera mourir, et il ressuscitera le troisième jour. Mais il ne comprit rien à tout cela. Ce langage leur était caché, et ils n'entendaient point ce qu'il disait. Entre parenthèses, Saint Luc, chapitre 18, versets 31 à 34. Fermez la parenthèse. Point 8. Jésus, ayant achevé tous ses discours, dit à ses disciples : Vous savez que la Pâque se fera dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Au même temps, les princes des prêtres et les anciens du peuple s'assemblèrent dans la cour du grand prêtre appelé Caïphe, et tinrent conseil ensemble pour trouver moyen de se saisir adroitement de Jésus et de le faire mourir. Et ils disaient : Il ne faut pas que ce soit pendant la fête, de peur qu'il ne s'excite quelque tumulte parmi le peuple. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 26, versets de 1 à 5. Fermez la parenthèse. Point 9. Le même jour, quelques-uns des pharisiens vinrent lui dire : Allez-vous-en, sortez de ce lieu, car Hérode veut vous faire mourir. Il leur répondit : Allez dire à ce renard : J'ai encore à chasser les démons et à rendre la santé aux malades aujourd'hui et demain, et le troisième jour je serai consommé par ma mort. Entre parenthèses, Saint Luc, chapitre 13, versets 31 à 32.
Nous voici arrivés à la séquence réservée aux communiqués de nos divers partenaires. Communiqué du Conseil Spirit International. Le 6e Congrès Spirit Mondial. Moins de 2 mois à peine nous sépare de l'ouverture du 6e Congrès Spirit Mondial qui aura lieu du 10 au 12 octobre cette année dans la belle ville méditerranéenne de Valencia en Espagne. Il est donc encore temps pour tous les spirites de se préparer à cet événement magnanime qui réunira plusieurs centaines, voire des milliers de sympathisants de la doctrine consolatrice codifiée par Allan Kardec, et ceci en provenance des 5 continents. Ce sera une occasion précieuse de se rencontrer ou de se revoir entre frères suivant la même philosophie favorable à l'échange d'idées et d'expériences de travail au bénéfice de chacun. Pour rappel, l'Espagne a été le siège du premier grand congrès spirit international de l'histoire, qui a eu lieu du 8 au 13 septembre 1888 à Barcelone. Les comptes rendus de ce congrès, que les studieux peuvent consulter sur le site internet de la Fédération Spirit Espagnole et dans les revues Spirit de l'époque, disponibles sur Encyclopédie Spirit, montrent la grande qualité des travaux et des conférences à cette époque. Rappelons aussi que les congrès Spirit mondiaux, promus par le Conseil Spirit International, ont lieu tous les 3 ans, alternativement en Europe et aux Amériques, en attendant l'occasion sur d'autres continents. Les 5 premiers ont eu lieu au Brésil, à Brasilia, en 1995, à Lisbonne, en 1999, à Guatemala, le 2001, à Paris, 2004, et à Carthagène des Indes, en 2007. Ainsi, le prochain congrès n'aura pas lieu en Europe avant 6 ans, soit en 2016. De plus, grâce aux efforts des organisateurs de ce 6e congrès à Valencia, il y aura des traductions simultanées de toutes les conférences en 4 langues, portugais, espagnol, anglais et français. Tous ceux d'entre vous qui ont déjà participé à un congrès de cette ampleur sont unanimes à dire qu'il y règne un climat d'extraordinaire fraternité et de bienveillance, donnant un avant-goût de ce que sera le monde de demain. Le monde de régénération. Les vibrations de tous les incarnés s'ajoutent aux vibrations des désincarnés et des guides spirituels, constituant une véritable bénédiction qui génère un bien-être et une disposition très propice à l'assimilation des enseignements proférés par les conférenciers. Les répercussions s'étendent également au monde spirituel, atteignant des milliers d'esprits nécessiteux qui bénéficient ainsi d'une influence positive. Au long de ces 3 jours, plusieurs personnalités marquantes des domaines des arts, de la culture, de la médecine, de la science, de la philosophie et de la société se prononceront du point de vue spirit, offrant une vision d'espérance et de bonheur pour l'avenir de l'être humain, dévoilant ainsi notre véritable nature d'essence spirituelle. Le programme complet avec les noms des conférenciers figure sur les sites internet de la Fédération Spirit Espagnole et ainsi que sur le site de la Fédération Spirit Brésilienne. Parmi les conférenciers de renom, citons la présence de Carol Bowman, scientifique américaine, qui fera le lancement d'un livre édité par le Conseil Spirit International sur les recherches concernant la réincarnation chez les enfants. Plusieurs autres livres seront lancés, y compris le livre de Guy Lyon Playfair de Londres au sujet de Chico Xavier, médium Half Century, à l'occasion de la première foire au livre Spirit d'Espagne qui aura lieu pendant le congrès. Il y aura également une commémoration du centenaire de la naissance du médium Chico Xavier, suivie de la présentation, sous réserve de l'obtention des autorisations, du film No Solar qui sera lancé au Brésil début septembre. Comme le disait encore Gabriel Delanne quelques années avant la Première Guerre mondiale dans la revue scientifique et morale du spiritisme du mois de mars 1900, 6 mois avant le congrès spirit et spiritualiste de Paris la même année, je cite, « Devant le flot toujours grossissant du matérialisme, il est nécessaire que tous les défenseurs de l'immortalité serrent leur rang afin d'opposer une digue infranchissable aux doctrines néfastes qui font de l'égoïsme le dieu du jour et qui, en abaissant le niveau moral des générations actuelles, nous conduisent aux pires catastrophes. » Fin de citation. Les spirites possèdent, dans la diffusion de leur doctrine, un baume souverain pour panser ces blessures sociales. Il faut que nous démontrions la certitude de l'immortalité qui emporte comme conséquence la responsabilité des actes après la mort. Le monde, il est vrai, a déjà beaucoup évolué depuis cette époque, mais il reste toujours dominé par le matérialisme. Cependant, l'intérêt pour les doctrines spiritualistes et rationnelles est croissant. Les consciences se réveillent davantage chaque jour en direction d'un monde plus juste, donnant ainsi un signal clair de la phase de transition de notre planète, conformément à ce qui a été annoncé par les esprits de la codification. Nous pouvons être sûrs que les thèmes abordés dans ce prochain congrès trouveront un écho dans la conscience de nombreuses personnes, même celles qui ne connaissent pas encore le spiritisme. Comme l'écrit César Péri dans l'éditorial du dernier bulletin du CSI, je cite, « Dans une grande époque de transition pour l'humanité, le Congrès Spirit Mondial représente le point de convergence entre les esprits guides des pays et du mouvement spirit et les incarnés. Pour renforcer l'idéal et éclaircir les chemins menant sûrement à la diffusion plus rapide et plus forte du véritable message chrétien amplifié par l'optique de la pensée spirit, allons donc nous retrouver à Valencia, recharger nos batteries, renforcer notre courage et notre motivation pour réaliser le travail de divulgation de la doctrine de lumière que nous avons embrasée et dont l'humanité a tant besoin. Nos guides sont déjà prêts et organisés dans l'au-delà. Ils nous encouragent et nous motivent sans cesse. Ces congrès offrent les conditions qui nous permettent de bénéficier de cette inspiration. Tous les détails pour l'inscription seront et sont déjà disponibles sur le site internet spécifique du 6e congrès mondial http://www.2010.kardec.s, traduit en plusieurs langues et où l'on peut réaliser l'inscription en ligne et aussi réserver l'hébergement. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. C'est signé Charles Kampf. Par la réalisation de congrès Spirit Mondiaux, le Conseil Spirit International cherche à consolider un espace au niveau international pour la divulgation des enseignements spirites dans tous les pays. La présence de conférenciers reconnus de différentes nationalités, les programmes et les thèmes toujours actuels, et la participation croissante de milliers de congressistes, entre autres, font de chaque congrès Spirit Mondial un événement unique. Ne ratez pas cette occasion. Agenda des activités en Belgique et en France. À Bruxelles, le noyau d'études spirites Camille Flammarion vous invite à son cycle de conférences 2010 à l'occasion des deuxièmes journées spirites de Bruxelles. Le jeudi 16 septembre 2010 de 19h30 à 21h30, le thème sera le sexe, l'énergie créative. Le conférencier sera notre frère Carlos Campetti, ex-président de la Fédération Spirit Brésilienne. À noter qu'il présentera une seconde conférence sur le thème du pardon le vendredi 17 septembre 2010 à 19h au siège social du Centre philosophique Spirit Nosolar de Bertry en province de Luxembourg, Belgique. Au siège social de l'association, rue des Hautes Voies, numéro 21 à 6880 Auby-sur-Semois. Pour renseignements et inscriptions au sujet de cette conférence, merci de prendre contact avec la responsable principale, Madame Marcia Alves, en formant depuis la Belgique le 0476 913 966. À Bruxelles, le samedi 25 septembre 2010 de 19h30 à 21h30, le thème sera « Physique moderne et ses relations avec le spiritisme ». Le conférencier sera le docteur Sergio Thyssen. Le dimanche 17 octobre 2010 de 19h à 21h30, le conférencier Miguel Sardano présentera sa conférence sur la souffrance, projet divin ou humain. Le dimanche 24 octobre 2010 de 19h à 21h30, notre frère Umberto Verdin vous présentera sa conférence sur la réincarnation, les faits historiques et la controverse au sein des différentes religions. Toutes ces conférences pour Bruxelles auront lieu à l'espace communal La Roseraie, chaussée d'Alsenberg, numéro 1299, à 1180 Uccle, Bruxelles capitale. Renseignements et inscriptions en formant depuis la Belgique le 0479 024 574 ou via courriel à l'adresse suivante info@nicafla.com ou via le site www.nicafla.com. En France, nos amis de l'Association du Chemin vous invitent à prendre note de l'agenda des conférences prévues pour les prochains mois. Le dimanche 10 octobre 2010 à 14h30, autour du thème « Les preuves scientifiques d'une vie après la vie » avec la présence exceptionnelle du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Le samedi 27 novembre à 14h30, sur le thème Chico Xavier, l'homme et le médium, celle-ci vous sera présentée par notre frère Michael Possardin, conférencier biographe. La dernière conférence est prévue autour du thème La force de la prière. Elle aura lieu le samedi 18 décembre 2010 à 14h30. Pour renseignements et inscriptions, merci de bien vouloir prendre contact via courriel à l'adresse suivante asso.du.chemin@free.fr ou par voie téléphonique en formant depuis la France le 09 50 69 26 10. Vous pourrez également obtenir d'autres informations via le site internet de l'association à l'adresse suivante www.le-chemin.org. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.